2h à Paris, 1h en temps universel.
Antoine Gallen.
À la une, réunion d'urgence à Paris entre plusieurs dirigeants européens pour parler de l'Ukraine. Car de son côté, Donald Trump veut négocier seul avec Vladimir Poutine. Le chancelier allemand Olaf Scholz demande plus de souplesse sur les dépenses militaires. Dans ce journal également, la visite de Rachida Dati, la ministre française de la Culture au Sahara occidental. Un voyage très symbolique, vous l'entendrez. Et puis la France et l'Union européenne annoncent des mesures fortes pour défendre l'industrie des éoliennes européennes face à la concurrence chinoise. Une réunion informelle organisée dans l'urgence par la France pour parler de l'Ukraine. Tandis que Donald Trump veut négocier seul avec Vladimir Poutine, une dizaine de pays européens étaient conviés, ainsi que les dirigeants de l'OTAN, de la Commission européenne et du Conseil européen. À l'arrivée, pas de déclaration commune ni d'annonce concrète, mais un constat, celui d'une nécessaire montée en puissance des Européens sur les questions de défense et de sécurité. Pour le chancelier allemand, il faudra se montrer plus souple sur les questions de financement public lorsqu'il s'agit des dépenses militaires.
Il sera très important pour l'avenir de l'Europe de permettre à tous les États membres de faire le nécessaire. À mes yeux, l'Allemagne peut accepter d'autoriser les États membres à dépenser plus de 2% de leur PIB pour la défense sans que cela soit bloqué par les critères européens de financement public. En outre, si l'Allemagne doit continuer à consacrer 2% de sa puissance économique à la défense, comme elle le fait actuellement sous ma direction, nous avons augmenté les dépenses de l'armée en conséquence, nous ne pourrons le faire dans un avenir très proche qu'en mobilisant 30 milliards d'euros supplémentaires par an. Et cela ne sera possible que si nous créons une marge de manœuvre budgétaire supplémentaire dans le cadre des règles d'endettement de notre loi fondamentale.
Les mots du chancelier allemand Olaf Scholz. Tandis que l'Europe veut rester unie et faire bloc, les États-Unis et la Russie ont confirmé la tenue d'une réunion ce mardi à Riyad. Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio va rencontrer Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a annoncé son arrivée en Turquie pour rencontrer le président Recep Tayyip Erdogan, ajoute que l'Ukraine ne reconnaîtra aucun accord s'il est conclu sans elle. De son côté, le président français Emmanuel Macron a fait savoir qu'il s'était entretenu avec Donald Trump ainsi qu'avec Volodymyr Zelensky. Il a déclaré sur le réseau social X que tout accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine devait s'accompagner de garanties de sécurité fortes et crédibles pour les Ukrainiens. Au Proche-Orient, Israël commence à se retirer du Liban, mais affirme vouloir y maintenir des troupes. Selon l'accord de cessez-le-feu, l'État hébreu doit pourtant se retirer d'ici mardi. Le porte-parole de l'armée israélienne s'y oppose et indique le maintien de troupes sur 5 positions dans le sud du Liban. Avant cette annonce, le président libanais Joseph Aoun avait appelé les États-Unis et la France à faire pression sur Israël. Débat public vif en Australie. Le gouvernement annonce qu'il prévoit d'envoyer 3 criminels étrangers sur la petite île de Nauru, à 3000 km du territoire national. C'est en réalité un accord. Canberra a versé un montant inconnu à l'île État contre un titre de séjour de 30 ans pour les 3 criminels dont l'Australie veut se débarrasser. Théo Renaudon.
On ne connaît ni leur âge, ni leur genre, ni leur nationalité. On ne sait même pas s'ils ont purgé leur peine. Les autorités précisent simplement qu'ils sont tous les 3 violents et que l'un d'entre eux est un meurtrier. En raison de leur crime, leur visa australien est annulé et un tribunal a jugé qu'ils ne pouvaient pas être détenus indéfiniment dans le pays. Solution trouvée par le gouvernement, l'expulsion vers l'île de Nauru, une île presque inhabitable, minée par des problèmes d'obésité et de chômage. Sur place, ils seront libres de leur mouvement et même libres de travailler. Mais alors, pourquoi Nauru? Pourquoi ce choix? Ce n'est pas la première fois que l'Australie y envoie des ressortissants étrangers dont elle ne veut pas sur son sol. Depuis 24 ans, des milliers de demandeurs d'asile sont expulsés vers Nauru. Conditions de détention terribles selon les ONG et cas de suicide ont poussé les autorités à quasi fermer le camp depuis 2 ans et à arrêter les expulsions. Mais ce retour donc aux expulsions provoque aujourd'hui de vives critiques de la part des organisations locales de défense des droits de l'homme.
Tandis que Donald Trump cherche à chasser du territoire américain les migrants en situation irrégulière, le Costa Rica s'aligne sur la position du Panama et du Guatemala voisins en annonçant son accord pour servir de plateforme pour réceptionner des migrants expulsés des États-Unis. Un premier contingent arrivera mercredi à San José à bord d'un vol commercial. Les passagers seront ensuite transférés dans un centre d'accueil temporaire à plus de 300 km de la capitale.
RFI, la radio du monde.
6 milliards de dollars, c'est ce que demande l'ONU pour aider près de 26 millions de Soudanais. Le Soudan est ravagé par la guerre civile entre les paramilitaires des forces de soutien rapide et l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan. Et ce depuis avril 2023, la moitié de la population souffre d'insécurité alimentaire. Les agences des Nations Unies soulignent que près de 12 millions de personnes ont été déplacées, dont 3,5 millions ont fui le pays depuis le début de la guerre. Jamais un responsable français de ce niveau ne s'était rendu au Sahara occidental. Rachida Dati était ce lundi en visite officielle dans cette zone administrée par le Maroc, mais que revendiquent les indépendantistes du Polisario. Ce voyage très symbolique de la ministre française de la Culture est un geste de plus en faveur de la reconnaissance par Paris de la souveraineté de Rabassour de ce territoire disputé. Mathias Reynal.
L'image a fait le tour des médias marocains. La ministre française de la Culture, Rachida Dati, en tenue traditionnelle sahraoui, dans une rue de Tarfaya. Elle s'est aussi rendue dans la ville de Laayoune, où elle a participé au lancement d'un centre culturel, une antenne de l'Alliance française, avant de rejoindre Darla, sa dernière étape. La ministre a qualifié d'historique sa visite au Sahara occidental, une visite qui démontre, selon elle, que le présent et l'avenir de cette région s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Des mots empruntés au président français, qui a proclamé l'été dernier le changement de position de son pays dans le dossier du Sahara, apportant un soutien appuyé au plan d'autonomie proposé par Rabat. Selon un communiqué du ministère de la Culture marocain, cette visite revêt, je cite, « une dimension politique après la reconnaissance par la France de la pleine souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud ». Ce voyage très symbolique intervient après la visite d'État au Maroc d'Emmanuel Macron. C'était au mois d'octobre. Le président français avait alors promis à Rabat l'engagement diplomatique de Paris afin de soutenir la solution marocaine sur le Sahara occidental à l'ONU et à l'Union européenne. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
En France, le budget de la sécurité sociale 2025 définitivement adopté au Parlement, et ce après un ultime vote au Sénat, 225 voix pour, 104 contre. Cela faisait plus de 4 mois que le texte avait été présenté. Toujours en France, le constructeur Citroën demande à près de 230 000 automobilistes d'arrêter de conduire leur voiture. Les airbags des modèles C3 et DS3 fabriqués entre 2009 et 2013 dans le nord de la France pourraient être défectueux. Ces airbags de la marque Takata sont susceptibles de causer de graves blessures et ont déjà provoqué au moins un décès en métropole et 11 en Outre-mer. Alors que la France mise beaucoup sur l'éolien en mer pour produire une électricité décarbonée, le pays et l'Union européenne annoncent des mesures pour renforcer et privilégier l'industrie européenne de fabrication d'éoliennes. Une forme de protectionnisme pour contrer le rival chinois en particulier. Et pour marquer ce soutien à l'éolien en mer made in Europe, le ministre de l'énergie français Marc Ferracci était au Havre ce lundi pour poser la première pierre de l'extension de l'usine d'éoliennes Siemens Gamesa. Jeanne Richard.
La nouvelle usine a reçu 170 millions d'euros d'aide publique française et européenne. Objectif, produire dès l'année prochaine des pales d'éoliennes longues de 115 mètres parmi les plus grandes au monde et ainsi concurrencer la Chine, leader en la matière. Ce soutien à l'industrie et aux emplois en France doit également se concrétiser avec de nouvelles règles d'attribution des marchés publics d'éolien offshore. La France vise 18 gigawatts d'éolien en mer à l'horizon 2035.
Face à une concurrence internationale qui est souvent féroce, qui s'exerce parfois dans des conditions déloyales avec des producteurs, notamment asiatiques, qui sont très subventionnés par leurs États, nous avons besoin de faire en sorte que les composants de ces éoliennes soient produits localement le plus possible. Nous souhaitons au fond sortir d'une forme de naïveté.
Concrètement, plus de la moitié des principaux éléments composant les éoliennes des futurs parcs offshore européens devront provenir d'un pays membre de l'Union. Le bilan carbone des éoliennes est aussi dans le viseur des autorités. Un bon signal pour l'association France Renouvelable, qui réunit les professionnels du secteur, qui permettra de limiter la dépendance européenne à la Chine et aux autres grandes puissances.
Et puis cette annonce du Japon pour relever les défis du dérèglement climatique. Le pays nippon projette de réduire ses émissions de 60% d'ici 2035 par rapport à 2013 et de 73% d'ici 2040. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir écouté.